l'écologie intégrale au cœur du Pays Basque. Une émission proposée et réalisée par Jeanne Busson.
Bonjour, donc nous sommes avec Cathy Constant Elissagaray, donc présidente de l'association Libre Cueillette et auteure du livre Parcours naturaliste en Pays Basque. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et est-ce que vous pouvez vous présenter ? Merci.
Bonjour. Je m'appelle donc Cathy Constant Elissagaray. Depuis toujours, je m'intéresse à la nature. J'ai appris à mieux la connaître en randonnant, d'abord en famille, puis avec des amis et enfin en sortie de groupe avec un guide naturaliste. Parallèlement, je fais partie depuis plus de 20 ans de la Société d'astronomie populaire de la Côte Basque, ce qui est une autre façon de s'intéresser à la nature, en comprenant mieux l'originalité de la Terre porteuse de vie, minuscule planète au sein d'un univers immense.
Merci. Alors, vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Parcours naturaliste en Pays Basque ». C'est une mine d'informations sur la faune et la flore locale et d'autres sciences naturelles. Comment est née l'idée d'écrire ce livre ?
C'est lors d'une randonnée littéraire organisée par la librairie de la rue en pente de Bayonne que j'ai eu l'occasion de rencontrer un éditeur. J'écrivais déjà depuis plus de 15 ans des récits de balades et de voyages agrémentés de photos, ainsi que des documentaires sur divers sujets. J'avais été pendant 7 ans correspondante pour le journal Sud-Ouest et je souhaitais avoir l'avis d'un éditeur sur la qualité de mon écriture et savoir si mes textes pouvaient intéresser un cercle plus large de personnes. C'était une sorte de défi que je me proposais.
Alors justement, est-ce que vous pouvez nous partager quelques extraits de cet ouvrage, peut-être des extraits, vos passages préférés peut-être ?
Le premier chapitre, et peut-être le plus important en volume, est consacré à un personnage exceptionnel, Jean-François Terrasse, ancien membre du WWF, ardent défenseur des rapaces, qui a tourné des films, rédigé beaucoup de livres et d'articles. Mais on ne trouvera nulle part ailleurs que dans mon livre l'histoire de son aménagement d'un petit vallon d'Arkang, Erota Andia, qu'il a transformé en réserve naturelle. J'ai réuni l'ensemble des articles que j'avais publiés à ce sujet dans le journal Sud-Ouest, sur mon site internet et dans mes notes. Dans un autre chapitre, j'ai relaté une randonnée au pic d'Annie, guidée par Dimitri Marguera, qui travaillait alors pour le CPIE Pays Basque. C'était à la fois sportif et très instructif sur la flore et la faune qui colonisent ce milieu calcaire et montagnard, aux conditions très rudes. J'en ai gardé un souvenir inoubliable. Je parle encore des cromlechs, de la nécropole pyrénéenne d'Okabe, qui a été visitée avec Claude Labatte, professeur à la retraite, passionné de mythologie basque et pyrénéenne, membre fondateur de l'association Laoburu. Et enfin, je termine le livre par un récit plus poétique qui évoque le brame du cerf dans les forêts profondes d'Irati.
Merci pour ce partage. Je rappelle, nous sommes avec Cathy Constant Elissagaray, présidente de l'association Libre Cueillette et auteure du livre donc Parcours naturaliste en Pays Basque. Alors vous parliez à l'instant de la faune et de la flore. Quelle est selon vous la fleur ou plante emblématique du Pays Basque et pareil pour la faune ?
Ma réponse va peut-être vous étonner. Pour moi, la plante la plus emblématique est l'ajonc, dont les fleurs jaunes d'or illuminent la montagne à une époque où les autres plantes sont fanées depuis longtemps. En effet, c'est elle qui, année après année, en dépit de tous les écobuages, résiste vaillamment, repousse sans arrêt et s'échine à restaurer les terres dévastées par le feu et le surpâturage. Non seulement elle enrichit le sol, car elle appartient à la famille des fabacées, que l'on appelait autrefois les légumineuses, fixatrices d'azote, mais en outre, elle le protège. Ses rameaux hérissés d'épines abritent de la dent des herbivores voraces les jeunes pousses d'arbres et d'arbustes jusqu'à ce qu'ils deviennent aptes à se défendre seuls. J'espère qu'un jour prochain, nous reconnaîtrons le rôle essentiel de cette plante et que nous laisserons la montagne redevenir, grâce à sa végétation arbustive et arborée, le château d'eau qu'elle était autrefois. En ce qui concerne la faune, je pense que la limace est de loin la plus emblématique de notre région. Elle est le symbole de l'eau abondante, de la terre généreuse, de cette verdure que beaucoup nous envient. Avec le réchauffement climatique, je crains que beaucoup de ceux qui vitupèrent après elle n'en viennent à regretter sa voracité, permise par un pays de cocagne dont nous n'apprécions pas la valeur à son juste prix.
Dans les émissions précédentes, nous avons essayé de comprendre et de décrire le patrimoine naturel exceptionnel du Pays Basque côté océan et côté montagne. Et je voulais quand même vous poser cette question. Comment définiriez-vous le patrimoine naturel basque justement côté océan et côté montagne, avec votre expérience et votre vécu en tant que naturaliste et randonneuse?
Je pense que l'on ne réalise pas encore suffisamment à quel point tout est lié. L'opposition montagne et plaine, côte et intérieur est factice. En voici quelques exemples. Le déboisement de la montagne l'expose à l'érosion, réduit l'infiltration de l'eau dans les nappes phréatiques, accentue le ruissellement et les risques d'inondations catastrophiques en aval. Deuxièmement, les barrages bloquent le transfert des débris rocheux arrachés à la montagne par l'érosion naturelle et qui auraient dû se transformer progressivement en sable en roulant dans les torrents. Toutes les côtes européennes pâtissent d'un déficit de sédiments qui contribue à les fragiliser et à les faire reculer. La côte basque ne fait pas exception, malheureusement. Troisièmement, les pratiques agricoles actuelles engendrent la perte de sol arable que nous voyons partir à la dérive en une longue traînée dans la mer depuis l'estuaire de l'Adour et des autres petits fleuves côtiers. Toutes ces perturbations du cycle de l'eau sont décrites depuis des années dans des rapports scientifiques. Mais nulle décision politique n'en a tiré les conséquences, bien au contraire. Par exemple, sur le plan local, l'institution Adour, composée d'élus et de conseillers départementaux, a initié un vaste programme hydraulique à partir de 1978, les premiers grands réservoirs du Sud-Ouest servant à l'alimentation urbaine en eau potable et à l'irrigation. Mais à partir des années 1980, les barrages n'ont servi qu'à l'expansion de la maïsiculture jusqu'en 2008. Puis de façon à poursuivre l'irrigation du maïs, leur dénomination a changé, passant de barrage-réservoir à soutien d'étiage ou retenue collinaire, afin d'obtenir un financement public pour des intérêts privés.
Donc par rapport à ce que vous disiez, que tout est lié, bien sûr, c'est le message fort de l'encyclique écologique du pape de 2015. Qui nous rappelle que la souffrance de la création est liée aussi à la souffrance des pauvres. Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc moi, je voulais aussi, bien sûr, vous poser la question d'où vient cette passion pour la nature, sa mise en valeur, en particulier dans les zones urbaines.
Pour un citadin, et plus encore pour un jeune citadin, la nature est une notion trop vague, trop lointaine, trop abstraite. J'ai eu la chance de vivre dans ma jeunesse à Arkhang, à une époque où l'on achetait encore le lait à la voisine qui avait des vaches dans son pré, où les insectes étaient légions et le miel des ruches abondant sur notre propriété familiale. Aujourd'hui, je pense qu'il est plus judicieux d'aborder le thème de la nature en enseignant à jardiner en ville. Jardiner, c'est apprendre à vivre au rythme des saisons. C'est prêter attention à ce que l'on mange, à sa santé. C'est découvrir qu'aucune de nos plantes comestibles ne pourrait subsister sans la collaboration d'une kyrielle d'auxiliaires sauvages, comme la coccinelle, le hérisson, le ver de terre ou bien sûr l'abeille. Enfin, jardiner, c'est revenir à des préoccupations terre à terre au sens propre, retrouver le plaisir des choses simples, l'émerveillement devant la vie dans toute sa diversité.
Merci, je rappelle que nous sommes avec Cathy Constant, Elissa Garay, présidente de l'association Libre Cueillette et auteure du livre parcours naturaliste en Pays Basque. Merci d'être avec nous. Alors justement, par rapport à cette végétalisation en milieu urbain, alors dans quel contexte est apparue l'association Libre Cueillette ?
Après avoir vu le film « Demain » de Cyril Dion et Mélanie Laurent, j'ai réfléchi sur l'expérience des incroyables comestibles à Todd Morden en Angleterre. Et j'ai décidé de m'en inspirer pour créer l'association Libre Cueillette. J'avais déjà initié depuis quelques années l'atelier jardinage et botanique à l'UTLA, l'Université du temps libre d'Anglette, et je souhaitais entreprendre une activité de sensibilisation de plus grande envergure.
Alors cette association Libre Cueillette, qui participe et fait vivre cette association ? Comment ça s'organise ?
Je l'ai fondée avec des membres de ma famille et une amie. C'est d'abord un de mes fils, qui est maintenant agriculteur bio, maraîcher bio. Donc c'est lui qui a assuré à mes côtés les premières animations au lycée Canto. Et puis c'est Sonia, qui a pris le relais pour animer les jardins partagés et des activités connexes.
Alors avez-vous des partenaires ? Quelles sont leurs contributions pour réaliser notamment les jardins partagés ? Et peut-être, est-ce que vous pouvez nous faire un rappel de vos objectifs sur l'association Libre Cueillette ?
En ce qui concerne les partenaires, le premier partenaire a été le lycée Canto. Nous avons travaillé avec des lycéens, des étudiants en BTS Design d'espace et des CAP menuiserie. Les professeurs étaient très demandeurs d'une activité qui illustre le développement durable et ces actions ont été financées comme projet de classe. Ils ont négocié auprès du proviseur l'attribution d'un emplacement pour jardiner dans le parc du lycée. Puis, nous avons été sollicités par le COL, le Comité ouvrier du logement, qui terminait juste la construction de 3 immeubles HLM en centre-ville, reliés entre eux par des terrasses au second étage. Des plates-bandes avaient été laissées volontairement sans végétation et nous avons été chargés, Sonia et moi, d'aider les nouveaux résidents à faire connaissance en jardinant ensemble. Le troisième partenaire a été le service jeunesse de la municipalité d'Anglette. Ayant eu vent de nos actions, il a souhaité créer avec notre collaboration un jardin partagé dans une résidence gérée par l'Office 64, un autre organisme HLM. Nous avions pour mission de former un employé du service jeunesse et des jeunes en service civique qui étaient sous sa responsabilité. Il devait être rendu capable, à terme, d'encadrer des résidents dans cette activité de jardinage. Enfin, depuis cette année, nous venons de débuter des activités au sein de 2 crèches, l'AAFS à Anglette et la MAM à Urugne. Parallèlement, nous reprenons des activités avec le lycée Canto, avec le COL pour d'autres résidences, et ainsi qu'avec le service jeunesse de la municipalité d'Anglette pour former une nouvelle personne à l'encadrement du jardin partagé de l'espèce.
Merci Cathy, Constant et Lisa Garay, donc présidente de l'association Libre Cueillette. On vous retrouve dès la semaine prochaine pour la seconde partie de l'interview et vous continuerez de nous parler bien sûr de votre association qui cherche à développer et promouvoir la plantation des végétaux comestibles en ville. À la semaine prochaine, bonne journée à tous, au revoir.
L'écologie intégrale au cœur du Pays Basque. Une émission proposée et réalisée par Jeanne Busson.